Science infuse.
Vers l'infini et au-delà.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Science infuse. Nous avons déjà parlé de biologie et de géologie dans les épisodes précédents. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est au carrefour de ces deux sciences.
Quel carrefour ?
Vous avez peut-être déjà entendu le terme anthropocène. Ce mot désigne une époque géologique qui aurait débuté à partir du moment où l'influence des activités humaines sur la Terre et les écosystèmes est devenue significative à l'échelle de l'histoire de notre planète. C'est la période à laquelle nous vivons. Alors pour l'instant, c'est une proposition de la part de certains scientifiques. Ce terme n'a pas encore été validé par toute la communauté scientifique, car certains estiment que l'Anthropocène est une période trop courte pour être considérée comme une vraie époque géologique comparée aux autres périodes. Donc pour rester exact, l'époque géologique actuelle est l'Holocène.
C'est pas simple, mais j'ai compris.
Cette époque a débuté il y a environ 12 000 ans. Et oui, en géologie, on s'intéresse très souvent au temps long, pas seulement à l'histoire humaine. Les géologues ne peuvent donc pas travailler avec les mêmes repères temporels que les historiens. Avec l'analyse des roches trouvées sur le terrain, ils ont mis au point l'échelle des temps géologiques. Une sorte de frise chronologique qui permet d'avoir des repères de l'histoire de notre planète. À mesure de l'avancée des travaux et des découvertes des géologues, cette échelle des temps géologiques est de plus en plus précise et cohérente avec les données récoltées sur le terrain. Cette échelle débute à 4,5 milliards d'années en arrière, l'époque de la formation de la Terre, et s'étend jusqu'à aujourd'hui.
Ça fait combien de temps ?
Trop longtemps !
Elle est divisée en deux éons. Le précambrien et le phanérozoïque. Ces deux éons sont subdivisés en plusieurs ères. Par exemple, la plus récente s'appelle le cénozoïque et s'étend de moins 65 millions d'années à aujourd'hui. Je précise que sur cette échelle, le signe « moins » ne signifie pas « avant la naissance de Jésus-Christ ». Cela signifie « avant aujourd'hui » ou « before present » en anglais, comme on le voit souvent en géologie. Ces ères sont elles aussi divisées en périodes. L'une des trois périodes de l'ère du Mésozoïque, par exemple, s'appelle le Jurassique, que vous connaissez au moins de nom. La période au cours de laquelle nous vivons s'appelle le Quaternaire. Vous commencez à comprendre, ces périodes sont elles-mêmes divisées en époques. Ainsi, l'Holocène, dont je vous parlais en début d'épisode, est une époque de la période du Quaternaire. Autre exemple, les trois époques du Jurassique sont le Jurassique inférieur, moyen et supérieur. Une dernière fois, les époques sont finalement divisées en étages. Vous l'avez compris, le terme Anthropocène a également été proposé pour marquer le passage à une époque où les activités humaines ont un impact certain sur la Terre et les êtres vivants qui y vivent. Et comme vous le savez, quand on parle d'impact ou d'influence, ce n'est pas en bien. Ça a plutôt des effets négatifs sur la géologie et la chimie de notre planète, ainsi que sur la biodiversité à toutes les échelles. En effet, nos activités entraînent une modification rapide du climat, le rendant de plus en plus incompatible avec notre vie et celle de nombreux organismes. Elles provoquent aussi directement l'extinction de nombreuses espèces. Mais ce genre d'événement s'est déjà produit. Des moments où la vie sur Terre a subi un bouleversement, une diminution rapide et importante des êtres vivants ont déjà eu lieu.
Ils sont tous morts.
Ce sont d'ailleurs les traces de ces événements dans les roches qui ont permis aux géologues de diviser l'échelle des temps géologiques en plusieurs époques, périodes et ères. On appelle ces événements des extinctions de masse, ou plutôt les crises biologiques majeures. Un tel événement s'étend sur quelques millions d'années. À l'échelle de la vie humaine, c'est très long. Mais à l'échelle des temps géologiques, c'est très bref. L'histoire de la Terre a été marquée par 5 crises biologiques majeures et de nombreuses autres crises moins importantes. Sur le terrain, il est possible de constater la trace d'une crise en remarquant que les familles de fossiles contenues entre deux strates rocheuses qui se suivent géométriquement et chronologiquement diffèrent fortement. Autrement dit, lorsqu'il n'y a pas du tout les mêmes fossiles dans une couche de roche datée d'une période par rapport à la couche de roche datée de la période suivante. Si on observe énormément de fossiles variés dans une couche rocheuse et qu'ils sont beaucoup moins nombreux, voire absents dans la couche rocheuse au-dessus, c'est peut-être la trace d'une crise biologique majeure. la plus ancienne a eu lieu à la fin de la période de l'Ordovicien, il y a environ 445 millions d'années. À cette époque, la Terre avait un tout autre visage qu'aujourd'hui. Les continents ne ressemblaient pas du tout à ceux que nous connaissons. Du fait de la tectonique des plaques, le déplacement des continents a provoqué des modifications climatiques. Et oui, lorsque les continents se déplacent, cela modifie les courants marins et donc la circulation atmosphérique, puisque ces deux mécanismes sont liés. Ces modifications climatiques ont abouti à une glaciation. Pour l'instant, c'est l'hypothèse la plus solide qu'ont les géologues sur les causes de cette crise. Il y a aussi peut-être eu des épisodes volcaniques durant lesquels les volcans étaient particulièrement actifs. La glaciation aurait provoqué la baisse du niveau marin moyen. À cette époque, la vie sur Terre n'était présente que dans les océans. Il n'y avait pas encore de forme de vie terrestre. Cela a donc entraîné la disparition d'environ 70% des êtres vivants marins, dont à peu près un tiers des animaux. La deuxième crise biologique majeure est survenue à la fin de la période du Dévonien, il y a environ 360 millions d'années. À cette période, le climat sur Terre est plutôt chaud et humide. La vie est présente sur les continents et la végétation est très développée. Les causes de cette crise ne sont pas très bien connues. Mais encore une fois, il y a pu avoir des éruptions volcaniques intenses et fréquentes, des épisodes de glaciation et d'abaissement du niveau marin, et des chutes de météorites. De plus, une des hypothèses émises est que le groupe des trachéophytes, à cette période, était très diversifié. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de plantes vasculaires, des plantes qui possèdent des tissus conducteurs. En effectuant leur mécanisme biologique, ces plantes auraient modifié les sols en y rejetant de grandes quantités d'azote. L'azote dans le sol aurait permis à des algues toxiques de proliférer et de provoquer la mort de nombreux organismes marins. Cette crise a donc été nettement plus importante dans les océans que sur les continents. Passons à la plus importante des crises biologiques, celle qui a eu lieu à la fin de la période du Permien, il y a 248 millions d'années environ. Elle a provoqué la disparition d'environ 90% des organismes marins, mais également 70% des organismes terrestres. Environ un tiers des insectes a disparu durant cet événement. Une des causes est la chute d'une météorite qui serait entrée en collision avec la Terre au niveau du large de la côte nord-ouest de l'Australie actuelle. Cela aurait provoqué des éruptions volcaniques fréquentes et violentes qui ont pu entraîner l'acidification des océans et une diminution de la couche d'ozone. Les êtres vivants ont donc pu être directement exposés aux UV du soleil en grande quantité, ce qui est fatal. De plus, à cette période, les continents étaient soudés en un seul, le supercontinent qu'on appelle la Pangée. Les courants marins auraient donc été modifiés, et le climat aussi, ce qui est également une cause probable de cette crise. La quatrième crise s'est déroulée à la fin de la période du Trias, il y a environ 206 millions d'années. C'est la crise la moins connue. Il se pourrait que les causes de cet événement soient semblables aux précédentes, une combinaison d'épisodes volcaniques, météoritiques et de modifications climatiques. Mais comme après chaque crise, s'ensuit une période de radiation biologique. C'est lorsque les groupes d'êtres vivants qui ont pu résister à l'épisode d'extinction se développent et se diversifient. On dit que lors d'une crise biologique, les espèces qui s'éteignent laissent leurs niches écologiques vacantes. Ces niches écologiques peuvent donc être colonisées par d'autres espèces qui, elles, ont survécu à la crise.
J'ai tout de suite adoré cet endroit.
Après la crise du Trias, la Pangée se disloque, les continents se détachent les uns des autres, cela s'accompagne d'un changement de climat, il passe de chaud et humide à chaud et sec. Certains animaux du groupe des archosauriens, comme les dinosaures, adaptés à ce genre de climat, vont donc se diversifier. Jusqu'à la cinquième crise biologique majeure, la plus connue, celle qui a eu lieu à la fin du Crétacé, que l'on appelle la crise KT, car c'est cette crise qui marque le passage de la période du Crétacé à celle du Paléogène, le moment où les dinosaures ont disparu. C'est évidemment la chute d'une météorite d'environ 10 km de diamètre au niveau du golfe de l'actuel Mexique qui en est la cause principale. C'est cet événement qui a donné lieu à des scènes de films impressionnantes, comme lorsque Aladar subit cette catastrophe avec les lémuriens dans le film Disney Dinosaur. Et comme lors de la crise du Permien, cela aurait provoqué d'intenses épisodes volcaniques. Ce qui aurait entraîné le relargage d'énormément de poussière dans l'atmosphère, à tel point que cela aurait abouti à une période obscure sur Terre, puisque les rayons du soleil ne pouvaient plus pénétrer l'atmosphère et atteindre la surface. Les végétaux verts ne pouvaient donc plus effectuer la photosynthèse et toutes les chaînes alimentaires ont donc été touchées. Des animaux herbivores et carnivores ont disparu également. S'en est suivie une petite ère glaciaire. Environ 70% des êtres vivants ont disparu durant cette crise et ce sont les gros animaux qui ont le plus souffert de cet événement, comme les ammonites et les gros reptiles marins.
On participe à l'extinction de l'espèce, je crois bien.
Voilà, nous avons passé en revue les 5 crises biologiques majeures, des événements qui ont permis de construire l'échelle des temps géologiques. Vous l'avez constaté, les causes des extinctions de masse sont souvent plurielles. C'est une combinaison d'événements qui entraînent ce genre de crise. On accumule des connaissances à propos de ces crises grâce aux traces qui nous parviennent dans les roches qui datent de ces périodes. C'est sans doute le plus grand enjeu de notre époque. Empêcher, ralentir, résister à une éventuelle 6e crise biologique majeure provoquée par nos activités et nos modes de vie à l'échelle planétaire. Même si la vie sur Terre ne s'est pas complètement éteinte après 5 de ces crises, ces événements ont été particulièrement violents et mortels pour de nombreux individus et espèces durant ces épisodes de quelques millions d'années. Tâchons de ne pas être à la fois la météorite et les dinosaures durant la crise KT. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. L'histoire de la vie sur Terre est un sujet passionnant et très riche. J'en profite pour vous dire que je présente un autre podcast qui s'appelle Bac de SVT. Si vous êtes lycéen ou simplement curieux, ça peut vous intéresser. Sinon, rendez-vous au prochain épisode de Science Infuse.